This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. There is an incredible facility right here in downtown Toronto that is helping on the front lines and is doing incredible innovative research. They are a facility that treats everybody with dignity, and they need your help. May 6th to 12th is Mental Health Week. If this matters to you, help CAMH. There's no better place for your resources. Go to camh.ca/CanadaLand. And donate now. Help CAMH treat addiction and build hope. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca/CanadaLand.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, je suis avec Beata Umubyeyi-Meres, qui est une autrice franco-rwandaise. Elle a récemment, en 2024, publié Le Convoi chez Flammarion, qui est un récit, et Culbuter le malheur, un recueil de poésie chez Mémoire d'Encrier, où elle se livre notamment en tant que survivante du génocide des Tutsis au Rwanda qui s'est déroulé il y a maintenant 30 ans. Bonjour Beata.
Bonjour.
Ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Pour le contexte, Beata est en tournée au Canada pour faire la promotion de ses livres. Elle habite normalement en France. Elle est ici à Montréal pour la semaine. Aujourd'hui, on va discuter ensemble, justement dans le cadre de cet anniversaire-là du génocide, du rôle des médias, bien sûr, dans ce qui s'est passé en 1994, dans un premier temps, et puis de la réappropriation du récit par la génération des survivantes et des survivants qui étaient des enfants en 1994. Merci et bienvenue à Détour.
6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvénal Habyarimana est abattu en phase d'atterrissage à Kigali. C'est l'élément déclencheur du génocide au Rwanda. 800 000 personnes, en majorité Tutsis, sont tuées en 100 jours.
Le pays sombre dans la violence. Les Tutsis sont tenus pour responsables de la mort du président. Des émissions de radio financées par le gouvernement incitent les Hutus à massacrer les Tutsis.
Armés de machettes, des miliciens, mais parfois aussi de simples citoyens, commencent à massacrer leurs compatriotes Tutsis et les Hutus modérés. Des centaines de milliers de personnes prennent la fuite vers les pays voisins.
Mais en tant que auteur, vous avez déjà votre actif plusieurs romans. Le Convoi est un peu différent que vous venez tout juste de publier chez Flammarion parce que c'est un récit. On sort de la fiction. Et vous racontez comment vous avez échappé vous-même au génocide alors que vous aviez 15 ans, en 94, grâce à une ONG, Terre des Hommes, qui était basée en Suisse, qui vous a amené dans un convoi vers la frontière du Burundi au sud du Rwanda. Vous racontez dans le récit votre expérience, notamment du génocide, les mois que vous avez passés au Rwanda durant cette période-là, la vie dans la clandestinité et bien sûr la manière dont vous avez fui vers la frontière. Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là, mais j'avais envie peut-être de baser la discussion sur la quête qui vous a mené à écrire ce récit-là. Et ce qui m'a frappé tout de suite en lisant le livre, c'est que au cœur de votre quête est d'essayer de retrouver des images de vous-même qui avaient été saisies par des journalistes d'une équipe de la BBC qui suivaient votre convoi. Comment est-ce que s'est déroulée cette expérience-là d'essayer de retracer les images de votre propre enfance prises dans les archives d'un média étranger?
Oui, c'est une quête qui a duré quasiment 15 ans. Au départ, il y a cette information qui nous a été donnée peu de temps après qu'on ait passé la frontière, le 18 juin 1994. Des gens nous ont dit nous avoir vus à la BBC, à la télévision britannique, au moment où on était en train de quitter le Rwanda, pendant que le génocide se déroulait encore. C'est une information que j'ai gardée en moi pendant 15 ans et sans rien en faire. Et puis un jour, alors symboliquement, il se fait que c'est au moment où je suis enceinte de mon premier enfant, je me décide avec mon mari à aller à la recherche de cette image en me disant, et on commence par envoyer un message comme on jette une bouteille à la mer ou un journaliste de la BBC, on a regardé sur Internet qui était au Rwanda pendant le génocide des Tutsis. Sans grand espoir finalement, mais ce qui va s'enclencher assez rapidement derrière, c'est une chaîne qui fait que je retrouve l'équipe qui a filmé, qui a accompagné le convoi depuis la ville de Boutaré d'où on est parti, c'est-à-dire la ville où je suis née, où j'ai grandi, jusqu'à la frontière avec le Burundi. Et je vais aller à la rencontre du reporter principal de l'équipe, Fergal King, qui est un journaliste irlandais à Londres. Il me remet la vidéo du reportage qu'ils ont tourné. Sur cette vidéo, il y a 2 minutes du convoi. Je ne m'y vois pas. Et dans un premier temps, je me dis que c'est un échec. Et quelques temps plus tard, un autre journaliste qui était de l'équipe, qui lui était à ce moment-là preneur de son, qui est sud-africain, nous écrit en disant « j'ai vu passer votre message et moi j'ai 4 photos que j'ai prises par ailleurs ». Et il m'envoie ces 4 photos. Et à partir de ces 4 photos, qui montrent des enfants dans les camions ou à la frontière, je vais entamer une quête qui, à chaque fois, m'amènera devant un cul-de-sac, des portes fermées. Mais je vois un autre chemin que je suis et au fil des années, je vais retrouver les humanitaires, je vais retrouver certains enfants, pas tous, et d'autres photos. Mais ça sera aussi un vrai parcours de la combattante dans la mesure où je réalise petit à petit qu'il y a effectivement beaucoup d'images qui ont été prises de cet événement précis, mais au-delà de ça, du génocide par des Occidentaux. En réalisant à quel point toutes ces images sont finalement aujourd'hui en Occident, très peu accessible aux principaux concernés, c'est-à-dire les rescapés, je vais entamer aussi une réflexion sur qui a documenté cette histoire et c'était à destination de quel public.
Un moment qui m'a particulièrement beaucoup marqué, c'est le moment où vous racontez aux journalistes de la BBC, donc, qui travaillaient pour l'émission documentaire Panorama, très très connue, où vous retrouvez ces journalistes-là et vous leur racontez comment est-ce que avec vos yeux d'enfants de 15 ans, vous avez pu constater que carrément la présence des journalistes avait en quelque sorte sauvé la vie de votre mère, parce que pour faire le chemin entre Boutari, la frontière burundaise, il y avait toutes sortes essentiellement de milices de contrôle à traverser. Et la simple présence d'hommes blancs avec des caméras avec vous aurait essentiellement limité la violence que vous avez subie. Est-ce que vous avez constaté que les gens étaient conscients de l'effet de la caméra, de l'effet de la présence des journalistes occidentaux sur le terrain lorsqu'ils étaient présents dans vos recherches, dans l'exploration que vous avez faite pour écrire ce récit-là?
Ce qui est certain, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que ce jour-là, ils avaient, par leur présence, sauvé la vie de ma mère. C'est moi qui leur apprends. Je ne suis pas sûre non plus qu'ils étaient conscients que leur présence éloignait les tueurs ou les mettait à distance. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait soit des journalistes, soit des humanitaires, il y avait quand même, alors pas systématiquement, mais il y avait quand même la possibilité de sauver des vies. Ce qui en creux me fait dire aussi que si la communauté internationale ne nous avait pas abandonnés, parce que ce qui s'est passé au début du génocide, comme souvent d'ailleurs sur le continent, c'est qu'il y a des parachutistes français, belges, qui sont venus au Rwanda avec pour seule mission d'évacuer leurs expatriés. Et en partant, c'était aussi une façon de laisser les tueurs et leurs victimes dans un huis clos. Les génocidaires ont même dit à un moment donné, voilà, les Blancs vous ont abandonné, donc ça veut dire que vous ne comptez pour personne. De la même façon que c'est aussi l'époque, vers le milieu du mois d'avril, où les Nations Unies décident de retirer les casques bleus qui étaient là pour assurer la paix et passer d'un contingent de 2700 hommes à peu près à 250. C'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée, alors que les massacres ont commencé, de dire on part. Et ce on part, quand je réalise moi, au mois de juin, que la présence de ces Occidentaux nous sauve la vie, a a posteriori une résonance très amère et qui peut aussi mettre en colère. C'est ce sentiment d'abandon absolu.
Oui.
De la même façon que les humanitaires, quand je réalise que les humanitaires qui nous ont sauvés, moi je pensais que c'était une ONG qui avait plein de gens parce qu'on était dans la peur, on n'était pas du tout forcément conscient de ce qui se jouait. C'est plus tard quand je retrouve Alexis Briquier, l'humanitaire suisse, et que je discute avec lui, puis que je commence mon enquête, que je prends conscience qu'en réalité, il n'était qu'une poignée de personnes. Donc c'était Alexis Briquier, sa compagne Diana Cavadini, le consul d'Italie Pierre Antonino Costa, aidé de quelques personnes qui ont réussi à eux seuls à sauver plus de 1000 enfants, à les exfiltrer du Rwanda. Donc si une poignée de personnes a réussi à sauver autant de gens, ça montre encore plus l'immensité de l'abandon.
Oui, on va revenir plus tard sur la colère, l'amertume que vous nommez. Je pense que c'est important d'explorer aussi. Mais d'abord, pour que les gens comprennent, si on peut lire ensemble l'extrait suivant.
Quand le génocide a commencé, début avril, les premières images produites ont été le fait de reporters venus couvrir l'évacuation des expatriés de la capitale. C'était alors une approche habituelle de l'information des crises en Afrique, consistant à s'intéresser avant tout au sort de ses propres ressortissants, alors que le destin des autochtones était généralement résumé dans un flou de violence sans analyse des causes ni précision du profil des victimes. Seule une dizaine d'envoyés spéciaux ont alors été dépêchés au Rwanda. La majorité des autres reporters étaient concentrés sur des événements plus porteurs dans les médias. La guerre en Bosnie.
Sarajevo entre calme et guerre fantasmagorique.
Et les élections en Afrique du Sud.
Whether you are a colored, an Indian, a white man or an African, let us all say we are one country.
C'est donc presque exclusivement au début, dans les convois d'évacuation organisés par les paracommandos belges et français, que se glissèrent les journalistes pour circuler dans le pays. Pour des raisons de sécurité, les journalistes ne virent pour la plupart la situation du pays qu'à travers les déplacements des militaires européens qu'ils suivaient. Ceci leur permit néanmoins de recueillir quelques images qui auraient pu être très éclairantes sur le génocide en cours, si elles avaient été accompagnées de commentaires ou légendes adéquates, ou si elles n'avaient pas été utilisées pour nourrir une narration problématique. Rappelons qu'au printemps 1994, le discours dominant consista à présenter la violence comme le résultat d'une haine atavique entre Hutus et Tutsis, génératrice de conflits à répétition.
Les Tutsis sont tenus pour responsables de la mort du président. Des émissions de radio financées par le gouvernement incite les Hutus à massacrer les Tutsis.
Ni les reporters sur place, ni les commentateurs sur les plateaux télévisés ne semblaient avoir une connaissance suffisante de l'histoire de ce petit pays, dont la plupart d'ailleurs avaient à peine ou pas du tout entendu parler auparavant. Cette ignorance allait permettre aux communicants politiques, notamment à l'Élysée, de diffuser la thèse de deux camps antagonistes se battant pour le pouvoir, l'armée nationale, composée exclusivement de Hutus, contre les rebelles Hutus Tutsi du FPR, est responsable collectivement de tueries dans les deux camps. Un an auparavant, pourtant, en janvier 1993, au journal télévisé de France 2, devant des millions de téléspectateurs, le militant Jean Carbonard, de retour d'une mission pour la Fédération internationale pour les droits humains, avait bien alerté l'opinion publique française sur les crimes commis au Rwanda par le pouvoir en place. Il avait clairement désigné les victimes comme étant de la minorité Tutsi, ne laissant aucun doute sur le caractère des massacres organisés par les autorités.
Ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut.
En 1994, puis durant les décennies qui ont suivi, le fait de ne pas nommer clairement le groupe d'appartenance des génocidés, parfaitement résumé par le terme consacré de « génocide rwandais », a ainsi permis de véhiculer l'idée fausse d'une folie généralisée où tout le monde tuait tout le monde, avec la vision raciste d'un peuple historiquement violent.
Merci beaucoup pour cette lecture, Beata, parce que je crois que ça peut aider l'auditoire à se mettre en contexte, justement, de cette frustration-là ou de cette amertume-là dont on parlait un peu plus tôt. Déjà dans le livre, on parle de la... En fait, des élections, de la première élection de Nelson Mandela en Afrique du Sud, à quel point c'était historique et ça a essentiellement sapé l'attention des médias internationaux qui, apparemment, ne peuvent couvrir qu'une histoire africaine à la fois. Donc, l'attention était sur l'Afrique du Sud. Une partie des équipes, dont une partie de l'équipe de la BBC que vous avez retrouvée, qui était d'abord en Afrique du Sud au moment de l'élection, qui sont arrivées par la suite au Rwanda alors que le génocide est encore bien couvert. C'est ce que vous expliquez. Et l'autre partie qui est très importante, je pense, de comprendre, c'est qu'il y a aussi une partie des médias, surtout les médias français, qui sont plutôt retrouvés à la frontière entre le Congo et le Rwanda, donc du côté congolais, où les génocidaires Hutus sont allés fuir lorsqu'ils ont perdu le pouvoir. Et donc, il y a eu une confusion aussi dans le récit, particulièrement français, puisque le gouvernement français soutenait le gouvernement Hutu, donc le gouvernement qui a conduit le génocide. Il y a eu une confusion aussi, d'abord dans le récit de l'Élysée en France sur le génocide qui était dans l'intérêt de l'Élysée d'entretenir cette confusion-là, mais il y a aussi eu une confusion dans le récit journalistique puisque la plupart des journalistes français et une grande partie des journalistes internationaux interviewaient essentiellement, non pas des Tutsis qui avaient fui une bonne partie, par exemple, au Burundi, vous étiez, mais aussi, ils étaient au Congo, ils interviewaient des Hutus. Et on a ce mélange-là d'images dans les semaines, dans les mois qui ont suivi le génocide, où essentiellement, on ne sait plus qui a tué qui, et puis les bourreaux sont pris pour les victimes. Et il y a cette grande confusion-là à travers notamment simplement l'absence des journalistes sur le terrain au Rwanda même et leur présence aux marges du côté Hutu, parce que c'était les alliés du gouvernement français. Est-ce que j'ai bien résumé la situation?
Oui, il y a de ça. Alors, c'est vrai que c'était très bien qu'il y ait des médias qui aillent couvrir les élections, les premières élections libres en Afrique du Sud. Ça, c'était une bonne chose. Ce qui est un peu plus ironique, c'est qu'il y a eu énormément de journalistes aussi qui sont ensuite allés couvrir la Coupe du monde de football aux États-Unis au lieu de venir au Rwanda à partir du début de l'été. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, comme vous disiez, autant le monde entier avait été très absent et très... Oui, nous avait abandonné pendant le génocide. Une fois que le génocide a été commis, il a été arrêté par l'avancée des rebelles du Front patriotique rwandais qui y ont mis fin. Et à partir du moment où ils ont commencé à prendre le pays, les militaires, les miliciens génocidaires Hutus, extrémistes Hutus qui venaient de commettre le génocide ont emporté avec eux toute la population Hutu, même ceux qui n'avaient pas participé aux tueries, les ont en quelque sorte presque pris en otage et les ont emmenés avec eux en exil dans des camps de réfugiés au Congo, avec l'aide aussi de l'armée de l'opération turquoise française hein, qui leur a permis de partir
voilà.
Notamment avec leurs armes, ce qui était très problématique.
Militairement, le FPR gagne du terrain, c'est la guerre. Parallèlement, les exactions continuent, le monde s'émeut devant les images insoutenables. Le 22 juin, la France lance son opération turquoise.
Et à ce moment-là, cette marée humaine de gens fuyant, dont une partie d'entre eux étaient des génocidaires, a été complètement couverte par les médias du monde entier. Les humanitaires aussi sont arrivés en très grand nombre. Et toute l'attention du monde s'est portée sur ces gens-là, d'autant que très peu de temps après, il y a eu une épidémie de choléra catastrophique qui a explosé dans ces camps. Et donc, des images extrêmement fortes de gens qui mouraient du choléra. Mais un amalgame incroyable, absolument insupportable, a consisté à présenter ces gens comme des victimes, alors victimes de la crise rwandaise, victimes du génocide rwandais, comme il disait, alors que c'était une partie d'entre eux étaient ceux qui venaient de commettre le génocide, et que parallèlement, très peu de gens allaient de l'autre côté venir en aide aux rescapés. Et c'est vrai que moi, j'arrive en France tout début juillet, et j'arrive dans un pays où, à longueur de journée, on voit une sorte de compassion internationale vis-à-vis de gens dont une partie et ceux qui viennent de nous massacrer. Et effectivement, ce n'est pas uniquement les médias français. Hein. Je cite dans le livre, en m'appuyant sur la thèse formidable d'un jeune chercheur français qui s'appelle Nathan Rera, il y a des grands journalistes de renom comme James Natchway, Sébastien Salgado, qui vont faire des photos qui ensuite seront légendées de façon à ce qu'on puisse croire que ces personnes-là, les personnes dans les camps sont des victimes du génocide. Il y a une photo de Natchway pour laquelle il a eu un prix très prestigieux qui montre un jeune homme dont les joues sont lacérées par des coups de machette, et en disant que c'est un Hutu qui a été macheté. Ce qu'il ne dit pas, ce monsieur est effectivement un Hutu, mais c'est un Hutu démocrate qui a voulu s'opposer au génocide et protéger des Tutsis, et qui a été macheté par d'autres Hutus. Mais dans une époque où très vite après un discours négationniste et révisionniste s'est mis en place en disant il y a eu un double génocide, de tout le monde a tué tout le monde, le fait de pouvoir utiliser des photos à mauvais escient comme ça est très problématique. Et puis je cite aussi dans le livre une photo d'un enfant dans un camp de réfugiés au Congo qui a été prise par un journaliste français qui s'appelle Christophe Calais. C'est un enfant qui a été, ou en plus, c'est vraiment ce genre d'image iconique, c'est un militaire français qui l'a recueilli alors qu'il était en train de mourir, je ne sais pas si c'est du choléra ou de déshydratation, qui le nourrit, qui s'en occupe. Donc c'est la photo parfaite du petit enfant noir en train de mourir, sauvé par un white savior, qui est un Français, qui donne un très beau rôle aux Français, alors qu'en réalité, c'était quand même un pays qui a soutenu le gouvernement génocidaire. Et cet enfant est devenu une sorte de symbole des victimes du génocide au Rwanda, alors qu'on apprend plus tard que cet enfant, son père, était un génocidaire. Donc c'est très problématique. Alors c'est important, et je le précise dans le livre, qu'il y a des journalistes qui n'ont jamais changé leur légende. Christophe Calais, lui, quand il a pris conscience de son erreur, a pendant des années jusqu'à maintenant ensuite été faire des photos pour documenter la réalité du Rwanda post-génocide et en quelque sorte s'amender de cette première erreur.
Vous parlez d'événements qui se sont déroulés il y a 30 ans. En même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder ça aujourd'hui parce que la violence, en fait, s'est pas arrêtée depuis, et au contraire, il y a énormément de massacres, des génocides qui sont en train d'être investigués en ce moment, des potentiels génocides. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que vous décrivez maintenant qu'on a 30 ans de recul sur ce qui s'est passé en 94?
Alors, je pense que ce qui a changé depuis 94, c'est que aujourd'hui, les victimes sont parfois, grâce au téléphone portable, sont en mesure de produire des images et de les diffuser par Internet, ce que nous n'étions pas en mesure de faire à l'époque. Ça, c'est ce qui a changé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est une sorte d'indifférence, voire de lâcheté de la communauté internationale. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est absolument insupportable. Alors, je tiens à préciser qu'évidemment, je condamne le massacre du 7 octobre commis par le Hamas sur la population israélienne. Mais aujourd'hui, on a des images, on a des faits du massacre qui est en cours en Palestine. Et on a l'impression qu'il y a quand même encore la même indifférence et la même lâcheté de la part de la communauté internationale pour empêcher, pour faire en sorte que ça s'arrête, alors qu'on aurait peut-être les moyens de le faire, certainement même.
This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. We got a tour of their facilities in their downtown Toronto campus, and I was blown away by the heroic work that these people are doing. They are saving lives every day. I know people whose lives were saved, and they just really care about the dignity of the people who turn to them for help. Look, we talk a lot about these issues on Canada Land. We talk about the crisis that is claiming 20 lives every day in Canada to drug overdoses. But we don't give you a lot of options of what you can do about it. CAMH is an option. CAMH desperately needs resources that they directly put into their work, saving lives and turning people's lives around. Listen, May 6th to 12th is Mental Health Week. This is when they need your help the most. Go to camh.ca/CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This show is sponsored by BetterHelp, therapy online that has served over 3 million people around the world, and it's available here in Canada. And this time of year, we're all emerging from our winter like seclusion and, you know, patio season and socializing, and it can be terrifically fun, but it can also create a lot of pressure. And some people get like anxiety, social anxiety from being out too much. What did Iggy Pop say about social life? It's torture dressed as fun. It doesn't need to be torture. I think it's just about finding like the right balance of how much of other people do you want? I mean, we need each other, but I think that at a certain point, it can become overwhelming. And talking to somebody about yourself, about your social life, about your relationships is a way of gaining insight into what is right for you. It's not selfish to examine that with a professional. And as the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Listeners of the show get 10% off of their first month at betterhelp.com/CanadaLand. That's better, H-E-L-P, betterhelp.com/CanadaLand.
Mais parlons-en justement de la parole des rescapés, la parole des survivants. Ils ont ensemble le prologue de votre nouveau recueil de poésie, Culbuter le malheur.
30 ans. 1994, c'était hier. Et pourtant, nous avons dépassé l'âge qu'avaient nos parents à l'époque. Nous sommes, pour beaucoup, devenus parents à notre tour. Nos enfants ont appris, en grandissant, à cohabiter dans nos cœurs avec des absents. Même quand nous avons manqué la force ou les mots sans arrêt tranchantes pour leur expliquer nos cicatrices, ils ont apprivoisé notre chagrin. Désormais, tant bien que mal, ils partagent nos silences. Le monde, lui, qui avait assisté à notre massacre les yeux grands fermés, est vite passé à autre chose. Depuis, il nous a accordé des brisures d'attention, une commémoration, une révélation, un procès ou un regret du bout des lèvres. Nous les avons acceptés, faute de mieux, témoignant dans le temps imparti, posant pour des photos dont nous n'allions pas rédiger la légende, laissant les mots des autres habiller nos abîmes. 30 ans. On aimerait croire que c'est le temps suffisant pour reconstruire un pays, écrire l'histoire et l'enseigner, établir les responsabilités et juger les bourreaux. Mais combien de décennies faudra-t-il encore pour réparer les cœurs, dissiper les peurs, pour entendre réellement nos histoires et empêcher le traumatisme de ravager nos fragiles familles? Qui veut réellement accueillir notre colère ravalée? 1 million de morts en 3 mois. Le génocide des Tutsis du Rwanda avait été annoncé. Il aurait pu être arrêté. Il n'était pas inéluctable. Il lui suffit d'un peu de volonté. Seule la lâcheté de ceux qui décidèrent l'abandon des soldats dits de la paix, ceux qui choisirent de n'évacuer que leurs ressortissants, tirant en l'air pour effrayer les condamnés qui s'agrippaient désespérément à leurs véhicules au lieu de tirer sur les miliciens, seule la lâcheté des dirigeants du monde civilisé devrait être qualifiée de tragédie aujourd'hui. Ils étaient le symbole même du progrès. Ce progrès qu'on nous avait présenté, toute notre enfance durant, comme l'horizon souhaité pour notre pays sous-développé. Paix, unité, progrès. Telle était la devise du Rwanda d'alors. 30 ans après, nous, les survivantes et survivants, pensons encore nos blessures intérieures dans une solitude sans nom, et notre besoin de consolation demeure immense. Bien souvent, ce sont d'autres qui racontent ce génocide au monde, nous donnant l'impression d'être devenus les figurants de notre propre histoire. si les années ont érodé les mémoires, au point d'effacer les traits des visages ou le son des voix, le souvenir des 3 mois d'avril à juillet 1994 que nous avons traversé en sursis, lui, reste vif. C'est si court, 3 mois, mais désormais, pour nous, c'est toute une vie. Il n'y a pas un jour qui passe sans que ce printemps de cendres et de sang fasse irruption dans notre esprit ou mette notre sommeil en charpie. 30 ans. Le malheur a pris pour chacun et chacune une ampleur différente. Certains, certaines sont parvenus à devenir des femmes et des hommes debout. Pour d'autres, les plaies sont encore à vif et les vides à jamais béants. Que peut la poésie, que peuvent les mots pour dire les 30 années empoisonnées à jamais par ces 3 petits mois? Si peu. Et pourtant. Il faut dire les mots, dire et ne pas renoncer à notre tentative quotidienne de culbuter le malheur. Parler, écrire, raconter, pour ne pas se laisser ensevelir par le silence des uns, la logorée négationniste des autres, tout simplement, l'indifférence du monde. Culbuter le malheur pour les enfants du jour d'après.
Merci pour cette lecture du prologue qui sert d'introduction à un recueil de poésie absolument éblouissant. Vraiment, félicitations. Et j'encourage les gens à prendre le temps de le lire à leur rythme. L'extrait qu'on vient de lire se termine sur la question des enfants du jour d'après. Et on a déjà nommé le fait que même votre propre quête, la question de ta propre grossesse se jouait dans ce qui l'a notamment déclenché. Comment la question de la transmission entre générations joue un rôle dans cette volonté-là d'écrire et de raconter des histoires qui sont nécessairement très douloureuses à revivre en les racontant?
Alors, il y a 2 publics auxquels on peut s'adresser. On a souvent dit, et à tort, j'ai réalisé que un génocide, c'était indicible, c'était innommable. Mm. C'est vraiment un lieu commun qu'on entend tout le temps, tout le temps. Et mon expérience à moi, à 15 ans, ça avait été que c'était surtout que c'était inentendable par les gens. Mm. C'est-à-dire que c'était une violence qui leur faisait peur. À la fois, ils pensaient me protéger en ne m'invitant pas à en parler, alors que moi, j'avais envie finalement de raconter. Moi, j'ai toujours pensé que la parole, elle pouvait être très thérapeutique. Et donc, moi, je me suis tue parce que je me suis rendu compte que c'était comme si moi, je faisais violence aux gens en leur racontant, alors qu'ils ne le souhaitaient pas. J'ai réalisé, en travaillant et en lisant des textes de survivants de la Shoah ou de gens qui ont travaillé sur cette mémoire-là, comme Annette Yevorka, que finalement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et du génocide des Juifs, beaucoup, beaucoup de rescapés avaient écrit, avaient voulu parler, et qu'ils n'avaient pas été entendus. Mm. Qu'il n'y avait pas eu de place pour... Je cite souvent comme exemple le cas de « Si c'est un homme » de Primo Levi, qui aujourd'hui est une œuvre connue et reconnue. Oui. Mais les premières années, elle a absolument pas circulé. Il faudra presque 30 ans pour qu'enfin on le lise, on le traduise.
30 ans comme ça fait aujourd'hui, 30 ans.
Oui, bien sûr. Et l'autre chose, c'est par contre, une fois que je suis devenue mère, c'est autre chose de parler à ses propres enfants. Et c'est beaucoup plus difficile. Je n'ai aucune difficulté à parler aux autres, même aux enfants des autres. Mais ces enfants à soi, quelque part, on est conscient de façon aiguë, ce que je disais dans ce prologue, de comment est-ce qu'on fait pour ne pas leur transmettre aussi le traumatisme. Ce n'est pas la même chose, parce qu'ils sont très très proches de nous. Néanmoins, moi, je me suis attachée avec leur père, qui lui n'est pas rwandais, n'est pas survivant, à leur raconter cette histoire-là, à hauteur de ce qu'ils pouvaient entendre au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Il se fait que mon fils aîné, a exactement l'âge que j'avais en 94, il a 15 ans, donc c'est une conversation qu'on peut avoir ensemble de façon beaucoup plus apaisée. Et je lui ai dit très tôt, c'est mon traumatisme, ce n'est pas le tien. Par exemple, quand j'ai peur pour lui, quand je lui dis non, n'ouvre pas la porte sans savoir qui est derrière, parce que j'ai des peurs qui sont absolument irrationnelles. Bon, Il se moque de moi gentiment et il dit « Mais maman, je sais pourquoi. » Et je dis « Oui, tu sais pourquoi. » Et puis toi, tu n'as pas à avoir peur. Mais je sais aussi que finalement, le silence ne résout rien du tout. Et que dans les familles où on n'a pas parlé, ça n'a pas empêché le traumatisme d'être transmis. Et par contre, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis dans une démarche de pouvoir aller témoigner quand je le peux dans les écoles auprès de lycéens et de lycéennes. Et que je me rends compte que ce témoignage-là, ils le reçoivent, ils l'accueillent avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intérêt, quand je leur dis que je leur parle d'une chose que j'ai vécue à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et surtout, je fais en sorte que ce témoignage ne soit pas uniquement celui d'un fait qui est arrivé il y a 30 ans à l'autre bout de la Terre, et je le relie toujours à la réalité d'ici et maintenant. Je leur parle de l'importance de suivre ce qui se passe en l'actualité. Je leur dis que moi, c'est parce que je m'intéressais à l'actualité, parce que j'écoutais les infos, que j'ai trouvé ce subterfuge absolument incroyable de en face des tueurs, de me faire passer pour française, parce que je savais que pour eux, les Français, c'était leurs alliés. Et je leur dis, lisez l'actualité, décrochez de temps en temps des réseaux sociaux, intéressez-vous à ce qui se passe dans le monde, parce que rien ne dit que vous ne serez pas un jour soit dans une situation d'être victime ou de pouvoir aider quelqu'un. Je leur parle de l'importance de la montée des extrémismes aujourd'hui, des néo-fascistes un peu partout dans le monde, et c'est vraiment partout dans le monde. Et d'être en mesure d'analyser ce que les médias leur disent, d'être en mesure de comprendre quand il y a de la propagande, de savoir qui leur parle, depuis où cette personne leur parle, pour devenir à leur tour des citoyens conscients, des citoyens qui sont en capacité de résister quand il le faut, et en tout cas de ne pas se laisser enfermer dans le confort et l'indifférence qui, pour nous, ont été absolument délétères.
Le savoir, y compris le savoir des enfants, c'est une forme de pouvoir ou une manière certainement une stratégie d'autodéfense. Juste le tout début du prologue, une des premières phrases, c'est que « Et pourtant, nous avons dépassé l'âge que nos parents avaient à l'époque. » Dans ce « nous-là », on sent que c'est la voix des survivantes et des survivants qui étaient des enfants en 94. Ce que tu es en train de raconter, c'est qu'essentiellement, avoir été si jeune à cet âge-là devient une force pour parler à d'autres jeunes. Alors que ce qu'on comprend dans le récit, dans les écritures, c'est qu'il y a eu peut-être un moment, un complexe d'imposteur ou des questionnements sur est-ce que c'est à la voix des enfants ou des gens qui étaient enfants de prendre la parole sur le génocide. Je pense que souvent, les gens vont plutôt vers les adultes. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une réflexion sur la pertinence de la prise de parole des gens qui ont vécu ces événements-là alors qu'ils étaient eux-mêmes enfants?
Certainement, et dans mon livre, je pose vraiment la question de ma légitimité. Je pose des questions qui devraient finalement être les questions que toute personne qui écrit un récit se pose, ou même les journalistes, de dire d'où on parle et quelle est sa légitimité à parler depuis cet endroit-là. Et je suis aussi tout à fait consciente que j'aurais pu avoir une double délégitimation, une triple silenciation même, parce que j'étais adolescente, donc entre l'enfance et l'âge adulte, parce que je suis africaine et que je suis une femme. Donc depuis ces trois endroits-là, finalement, on ne s'attendait pas à ce que je devienne écrivaine et que je parle. J'aime bien citer une poétesse féministe catalane qui s'appelait Maria Mercè Marçal, et elle a ce très court poème qui dit « Je rends grâce au hasard d'être née femme de classe populaire et de nation opprimée et de ce trouble azur d'être trois fois rebelle. » Et donc, quand j'interroge ma prise de parole et quand j'interroge ensuite la prise de parole, ou en tout cas celle qui a été jusqu'à présent celle des autres, c'est une façon aussi de pouvoir affirmer ça, que pour des gens comme nous, écrire et pouvoir aller diffuser nos histoires dans le monde, c'est comme si ça demandait trois fois plus d'efforts face à un monde éditorial qui ne nous attend pas, face à un monde en général qui ne nous attend pas et qui a tendance à trouver normal que les faits historiques africains soient racontés par d'autres.
J'écoutais pour, avant qu'on se rencontre, certaines des entrevues qui ont été faites en France depuis la publication du Convoi, de ce recueil de poésie-ci. Puis, je me posais la question de manière générale, est-ce que peut-être un des obstacles à cette prise de parole-là peut pas être aussi l'insistance parfois des gens sur les détails les plus horribles, la question du trauma porn, comme en bon français, ou des gens qui veulent avoir un effet sensationnaliste dans ce qui est raconté. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre le désir de dire exactement les choses et aussi de ne pas mettre en spectacle les côtés les plus horribles de l'expérience du génocide des Tutsis?
Eh bien, moi, par exemple, dans mon récit à moi, il n'y a pas forcément de scène absolument atroce, puisque j'ai été privilégiée en ce sens où je n'ai pas été m'achetée, je n'ai pas vu de gens m'acheter devant moi, j'ai vu des cadavres, et j'ai été à deux doigts de me faire violer, mais je n'ai pas été violée. Non, mais c'est vrai, c'est quand même important de dire que par rapport à d'autres, je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt et qui fait croire que ça a été aussi, ou en tout cas, aussi peu dur que pour les autres. Par contre, c'est une vraie question que je me suis posée quand j'ai publié mes premiers recueils de nouvelles, et notamment Ejo. Et en fait, je suis allée chercher dans la langue rwandaise, dans ma langue maternelle, dans la façon dont nous avons de dire les choses. On n'a pas besoin d'utiliser justement des images sensationnalistes ou d'être dans quelque chose de cru pour dire pourtant le degré de déréliction que nous avons pu traverser. Et c'est en parlant, en utilisant des proverbes rwandais et en parlant à la rwandaise que j'ai pu pourtant aborder les sujets les plus terribles. Il y a une nouvelle qui s'appelle Petite, par exemple, qui est dans mon deuxième recueil de nouvelles, où je parle du viol et d'un enfant né du viol, mais je ne l'aborde pas parce que j'avais été assez gênée par les documentaires qui avaient pu être faits par des journalistes occidentaux qui allaient interviewer des femmes qui avaient été violées et leurs enfants qui étaient nés des viols, et dans un truc très voyeuriste comme ça, qui n'était absolument contraire à la culture rwandaise. En plus, j'avais appris derrière les conditions dans lesquelles ces tournages avaient été faits, qui étaient absolument pas déontologiques. On demandait à plusieurs reprises aux femmes de raconter les choses. Et moi, j'ai écrit une nouvelle où justement, je donne la parole à un enfant, au grand frère d'un enfant qui... En fait, on comprend que sa maman a été violée pendant le génocide et que sa petite sœur est née de ce viol. Et je le fais à la rwandaise. Et on comprend très bien la souffrance et l'absolue solitude de cette famille en lambeaux, mais sans que ça ne soit absolument, comme vous disiez, c'est pas pour les voyeurs, quoi. C'est pas pour les voyeurs, mais notre culture permet ça.
Il y a des ressources pour ça.
Oui.
Le titre du recueil de poésie est inspiré d'un vers de Georges Carterafis, qui est un poète entier, qui dit « Tu me demandes, mon amour, ce qu'est la poésie. C'est des paroles semées pour culbuter le malheur. » Est-ce que dans l'écriture et dans les prises de parole qui sont faites notamment auprès des jeunes dans les écoles, est-ce que tu sens qu'il y a cette guérison-là en cours? Est-ce que tu sens que le malheur est en train d'être culbuté 30 ans plus tard?
Alors moi, je ne parle pas de guérison. Comme dans le champ de la santé mentale, on ne parle pas forcément de guérison, on parle de rétablissement. Le mal qui nous a été fait ne disparaîtra pas, le chagrin ne disparaîtra pas, et il ne faut pas non plus faire croire que la littérature peut tout. Il y a des choses que la littérature ne peut pas faire, et je pense, en disant cela, à ce que quelqu'un comme Neige Sinon, qui parle de l'inceste qu'elle a subi durant son enfance, dit sur ce que la littérature ne peut pas. Donc, il ne faut pas s'imaginer que, pour moi, la littérature n'a pas été cathartique. L'écriture, c'est la thérapie qui m'aide. Et je pense qu'il faut vraiment, je suis vraiment une militante de l'accès à la santé mentale, notamment dans les communautés afro-caribéennes. C'est très, très important, ça. Avec des thérapeutes, effectivement, qui sont aussi... débarrasser des schémas racistes, évidemment. Mais par contre, ce que peut la littérature, elle peut être un élément de témoignage important pour faire connaître l'histoire. Et aussi, parce que moi, la littérature m'a aidée à me sentir moins seule. Je trouve que la littérature permet des solidarités. Elle permet de trouver des mots J'aime bien citer aussi un poète américain qui s'appelait Doherty, qui disait pourquoi se préoccuper à écrire ? Parce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un dont le chagrin a la forme exacte de tes mots. Et moi, c'est en lisant les textes d'autres survivants, mais aussi en lisant des textes de féministes, dans Culbuter le malheur, il y a le très célèbre poème d'Audre Lorde, Litanie pour la survie, qui a été important pour moi. C'est ça que peut la littérature, partager nos histoires et se dire qu'elles pourront être utiles à d'autres personnes parce qu'on a fondamentalement besoin de mettre des mots sur notre expérience et la faire entendre au monde. Mmh. Et la faire entendre aussi à ceux qui ne souhaitaient pas entendre. Oui.
C'est peut-être ça aussi, la réappropriation du récit, notamment par l'écriture, par la parole.
Bien sûr. Ça permet de sortir de la silenciation, parce qu'en fait, la première violence, c'est le crime que l'on subit, et la deuxième violence, c'est celle du silence, de la chape de plomb qui peut être mise, ou alors d'être mal racontée. C'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Mmh. Être en capacité de bien nommer et de dire ce qui s'est passé, de dire ce que ça nous a laissé aussi comme héritage, c'est indispensable. Et ça aide. Ça ne soigne pas à proprement parler, mais ça aide à avancer.
Merci pour le partage de cette réflexion-là. Beata, je crois que c'est utile pour toutes les personnes qui s'intéressent au génocide des Tutsis et de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Mais ça donne aussi un recul pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 30 ans et aujourd'hui même. Merci énormément d'avoir été avec nous. C'est tout pour Détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand ou m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Beata, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ben, d'abord, il y a Culbuter le malheur chez Mémoire d'Encrier et il y a le convoi chez Flammarion. Est-ce que les gens peuvent te suivre aussi sur les réseaux sociaux?
Je suis juste sur Instagram. Voilà. Et puis sinon, c'est en suivant les informations sur le site de Mémoire d'Encrier ou sur celui de Flammarion. Merci infiniment, Émilie, pour l'écoute et pour le partage.
Ça fait grand plaisir. Vous pouvez aussi écouter les nouveaux épisodes de Détour à chaque 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Aviva Lessard, la production technique est par Tristan Capacchione. Le coordonnateur de la production est André Prou. Karen Pugliesi est la rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca.
Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé l'épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.